Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service, où nous allons parler de risques liés aux constructions anarchiques de stations-service. Nous avons déjà notre premier invité, Nixon Nzinga, président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz, qui est déjà en ligne. Monsieur Nixon Nzinga, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour aborder cette question sur le risque lié aux constructions anarchiques de stations-service. On aura également Tony Tchermani, conseiller technique au ministère des hydrocarbures. Voilà, nos deux invités pour ce deuxième sujet de votre magazine La Vie au quotidien Capi Service sur le risque lié aux constructions anarchiques de stations-service. Et Mimi Kine est toujours là à la mise en onde des Tati Mapouko aussi à la réalisation et à la coordination de ce magazine présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matouaki.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Des stations-service poussent comme des champignons dans la ville-province de Kinshasa, souvent sans respect des normes urbanistiques et environnementales. En tout cas, ça, c'est selon les experts. Au carrefour de Superlimba, par exemple, 3 stations-service sont érigées non loin des maisons d'habitation, des écoles, des bars et autres lieux publics. Le constat est le même dans les autres grandes agglomérations du pays, donc de la RDC. Ces sujets étaient d'ailleurs à l'ordre du jour lors du dernier conseil des ministres, au cours duquel le président de la République, Félix Tshisekedi, a déploré ces situations aux conséquences potentiellement néfastes pour la sûreté nationale. Quels sont les dangers liés à la construction du stations, services en respect des normes requises. Que faut-il faire pour assainir les secteurs du commerce des hydrocarbures en RDC? Voilà, c'est le sujet qui va être abordé tout à l'heure avec nos deux invités. Il y a Monsieur Tony Germani qui vient de nous rejoindre dans ses studios, conseil technique au ministère des hydrocarbures. Bonjour Monsieur Tony Germani.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Voilà, bienvenue à vous dans ce magazine au Capi Service où on va parler des risques liés aux constructions anarchiques des stations services. Je rappelle numéro du contact. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, composez les 081-890-63-94, en collision 99-706-63-94. Monsieur Tony Germani, vous êtes conseiller technique au ministère des hydrocarbures. Je pense que les constats est bien connu de toute cette prolifération de stations-service, en tout cas dans la vie province de Kinshasa. Souvent, ce qui inquiète, c'est sans respect des normes urbanistiques et environnementales. Qu'est-ce qui explique d'abord cela?
Ben, merci Monsieur le journaliste pour l'opportunité que vous accordez à pouvoir expliquer un peu ce qui se passe. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une prolifération des stations-service non seulement dans la ville de Kinshasa, un peu sur l'ensemble du territoire national. C'est un phénomène qui s'observe sur l'ensemble du territoire national. Et c'est une situation qui n'est pas normale, comme vous l'avez constaté, effectivement. Il y a donc quelque chose qui ne marche pas très très bien dans la procédure de pouvoir accorder à ces opérateurs de pouvoir construire leurs stations. Mais ce que vous devez retenir, c'est que souvent les gens ont l'habitude de penser que les hydrocarbures est à l'avant-plan dans les autorisations d'implantation de stations-service. Non, il y a tout un comité mixte qui siège normalement au niveau de l'urbanisme, et ces comités mixtes, le problème se trouve à ce niveau-là. Ces comités mixtes n'est pas opérationnel comme il devait l'être. Et donc tout part de là, et vous avez constaté que
les hydrocarbures sont également dans ce comité mixte.
Nous y sommes, mais oui. C'est sous le leadership de l'urbanisme. Et nous, normalement, nous, les hydrocarbures, nous venons en aval de la procédure. Ça veut dire lorsqu'un opérateur a obtenu toutes les autorisations de l'urbanisme, à ce qui concerne le terrain et tout ça, l'hôtel de ville, à ce qui concerne les autorisations particulières, parce qu'il est en train de construire dans un environnement géré par l'hôtel de ville et tout ça. Et nous, à la fin, on est sollicité pour octroyer les autorisations nécessaires pour opérer. Mais normalement, c'est pas cela qui devrait se faire. Ou alors, si les choses se faisaient normalement au niveau du comité mixte, qui n'est plus opérationnel, comme je vous l'ai dit, les choses se passeraient autrement. Parce que les hydrocarbures estiment que, une fois les terrains obtenus, il aurait d'abord fallu que le ministère des hydrocarbures puisse donner son avis favorable sur le plan technique, évidemment, avant même que l'urbanisme ne puisse se prononcer à ce qui concerne les normes urbanistiques et tout ça. Parce qu'un terrain peut être, sur le plan urbanistique, viable, mais techniquement, pour les activités des hydrocarbures, il ne l'est pas. Donc, c'est tout ça.
Mais c'est quand même bizarre que ces comités mixtes ne puissent plus exister.
Oui, on a son Excellence, Monsieur le Ministre, l'a déjà rappelé plusieurs fois. Oui. Je pense que là, tout est en train de se mettre en œuvre pour y arriver. Ça va être opérationnel.
Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des dégâts causés par-ci, par-là. On ne le souhaite pas, mais quand on descendit, pour qu'après, qu'on puisse chercher à mettre de l'ordre dans les secteurs. Alors, prenons le cas, par exemple, du carrefour de Superlimba, où il y a trois stations-service qui sont érigées, non loin des maisons d'habitation, des écoles, des bars et autres lieux publics. C'est vrai, vous dites que vous, des hydrocarbures, votre travail, c'est un aval, mais vous pensez pas que il est quand même prudent d'essayer de voir comment il faut continuer à octroyer ces autorisations de bâtir des stations-service, en tout cas ici dans la ville province de Kinshasa.
Mais je crois qu'on est déjà face à une option d'autorité qui est élevée par l'autorité du gouvernement. Vous avez suivi les conclusions du dernier conseil des ministres. Je crois que c'est une conclusion qui touche directement à cette activité-là. Et donc, je crois qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour que quelque chose se fasse aussi. Je crois que là, on va être obligé de pouvoir faire l'évaluation de ce qui est fait. Oui. Et parce que les textes existent, hein. Nous, notre réglementation est claire quant à ce. Donc, une station service, un dépôt de stockage doit respecter un certain nombre de normes. On peut pas construire à proximité, par exemple, comme vous l'avez dit, des écoles, des maisons d'habitation et tout ça. Ça, c'est un problème. Effectivement, nous devons faire l'évaluation rapide et trancher là où il faut trancher. Je crois que ça revient à l'État de le faire et le ministre des Hydrocarbures est aligné dans cette optique-là et je crois que ça va aller avec son collègue de l'urbanisme.
On espère que ça sera vite fait. On revient à vous, monsieur.
Le travail a commencé.
Ça, c'est très bien. Alors, nous avons un autre invité en ligne, Nixon Nzinga, président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz. Nixon Nzinga, rebonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous avez certainement également fait le constat avec cette prolifération de construction anarchique, s'il faut le dire ainsi, des stations-service dans la ville, province de Kinshasa. Vous êtes président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz. Comment, vous, à votre niveau, vous percevez, hein, mais quelle perception faites-vous de cette façon de faire où il y a des stations-service, en tout cas qui poussent comme des champignons dans la ville, province de Kinshasa?
Bon, il faut noter une chose très importante, et il y a la création d'emplois.
Oui.
Mais cette création d'emplois ne peut pas être en désordre. Vous parlez de Lemba, Terminus, il y a trois stations. Si les chiffres d'affaires n'étaient pas importants, l'une d'elles devait déjà fermer les portes. Donc, s'ils sont là, donc le business tourne pour eux. Donc, il y a nécessité qu'il y ait trois stations à ces lieux-là. Et peut-être le flux et la consommation importante fait qu'il y ait trois stations. Parce que si l'une des stations ne fonctionnait pas, je t'ai dit, il devait fermer. S'il n'y avait pas de la clientèle. Donc, il y a création d'emplois. Et ça prouve le développement d'une nation lorsqu'on voit le développement dans un secteur. Il s'agit d'un développement. Mais le problème, c'est un développement, oui, mais ça ne peut pas être en désordre, parce qu'il s'agit quand même des produits qui sont réglementés. Le conseiller Michel Tony l'a bien dit, la faille pourrait être au niveau et au niveau de la commission, de cette commission, parce que c'est chapeauté au niveau de l'urbanisme. Alors moi j'ajouterais à l'urbanisme, je vois, il faut ajouter les ministères de l'environnement. De l'environnement, parce qu'il y a quand même une certaine pollution. Il faut ajouter les ministères de l'économie pour la normalisation. Il faut ajouter les ministères de l'industrie dans cette commission pour normaliser. Nous devons avoir des normes sur la, la construction d'une station. Et comme il y a déjà des études qui sont faites pour régulariser et voir là où il faut rectifier, à ces gens-là, moi je ne pense pas qu'il faut leur dire de fermer. Il faut les accompagner. S'ils doivent acheter des parcelles voisines, aidés toujours par l'État congolais, ils achètent des parcelles voisines pour garder une certaine distance avec les habitations. Comme ils ont acheté là où ils sont, pour certains, ils ont même acheté des parcelles des gens, pour certains des terrains, de l'hôtel des villes, donc ils peuvent bien acheter les parcelles, environnantes, et créer cette distance entre une station, un service, et les habitations ou les écoles. Je vois à Bandal, par exemple, derrière, il y a une école. Donc tout ça, c'est l'État qui doit accompagner ces opérateurs qui sont déjà installés. Mais les grands travaux sont au niveau de la commission, qui doit être élargi par d'autres services, pourquoi pas, même par les opérateurs, un représentant des opérateurs. Nous avons toujours cette façon de faire les choses sans associer les gens qui travaillent dessus. Les opérateurs doivent aussi être associés dans leur comité, une personne qui opère dans les secteurs, qui peut avoir un avis qui est opérationnel. Mais quand vous foutez dans une telle commission, vous mettez des gens qui n'ont aucune idée sur l'activité, bon, on va fermer toutes les stations, alors qu'il s'agit d'un développement. Et certaines stations embellissent même certains endroits.
Oui.
Où il y avait l'insécurité, où c'était noir, mais le fait d'ériger une station, les lieux deviennent vivables. Donc voilà, je le répète, hein, pour moi, par exemple, moi je suis alimenté, moi je souhaiterais avoir une station service chaque trois rues, hein, une station à la 5e rue, à la 7e, à la 9e, parce que il faut associer aussi les boutiques que nous avons dans les stations, qui rendent aussi service. Donc je peux m'approvisionner en carburant, et même en produit de première nécessité dans une station. Donc il s'agit vraiment d'un vrai développement, mais qui doit être réglementé, parce qu'on gère un produit dangereux. Voilà ce que je peux dire à ces instants.
Voilà, restez toujours en ligne, Monsieur Nixon Nzinga, on va revenir à vous. Alors, Monsieur Tony Charmani, vous avez suivi Nixon Nzinga, qui est président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz. Il a dit effectivement, il y a en tout cas cette commission, et vous avez bien fait de dire que le travail a déjà commencé, mais il faut associer, il a parlé également du ministère de l'Environnement, et... au niveau des hydrocarbures, à votre niveau, est-ce que vous avez déjà une idée de l'impact de la prolifération de anarchique de ces stations-service par rapport sur l'environnement?
Bon, d'abord, je confirme que dans ces comités mixtes, il y a effectivement l'environnement. L'environnement y siège aussi. Il y a aussi le ministère des Affaires foncières. Des affaires foncières qui y siègent aussi, dont les membres siègent aussi. Il y a l'hôtel de ville. Donc, tous ces services, déjà, siègent au niveau de ces comités mixtes. Effectivement, j'insiste sur l'opérationnalité de ces comités parce que, justement, le ministère de l'Environnement, par exemple, pouvait déjà se prononcer notamment sur l'étude d'impact environnemental que chaque opérateur devrait présenter avant la construction de ces stations, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut voir à quel niveau se situe la station, quel est l'impact justement de ces stations sur la vie sociale de la population et tout ça. Mais vous constaterez avec moi que bon, il y a un problème à ce niveau-là, mais il n'est jamais tard pour faire. Nous mettons déjà à l'œuvre pour d'abord répertorier, faire l'évaluation de ce qui existe. Nous avons effectivement un répertoire, mais on va mettre à jour ce répertoire pour voir exactement de qui il s'agit, comment ça s'est fait et tout ça, et pour arriver à pouvoir actualiser la réglementation, parce qu'elle existe, la réglementation. Bon, effectivement, sur le plan économique, ça c'est quelque chose que nous appuyons, mais une autre dimension aussi, c'est que toutes les stations n'utilisent pas les carburants du circuit normal. Il y a plusieurs stations qui utilisent les carburants des circuits, on va dire, informels, qui viennent de Loufou et tout ça, de Yema partout, de l'Angola, on va dire, de façon globale. C'est des produits non pas nécessairement provenant du circuit, ce que nous appelons du réseau.
Circuit normal, c'est avec CEP, c'est ça?
C'est avec, je vais dire, les réseaux CEP, oui. Et puis LRSCOM aussi et tout ça. Donc nous sommes en train de faire un travail dans ce sens-là. Donc il y a des stations qui n'utilisent pas des produits marqués. Donc, ça veut dire les produits qui viennent certaines des circuits formels. Et nous allons commencer les travaux.
Mais là, là c'est maintenant les travaux du ministère des hydrocarbures.
C'est à vous de mettre notre contribution. Dans la chose. Oui. Donc nous allons jouer notre partition. Mais nous insistons sur le redémarrage de ces comités mixtes pour que le travail se fasse. Parce que un requérant, lorsqu'il fait il sollicite l'agrément pour une station, nous devons valider ça ensemble. Nous devons voir l'endroit où il se propose de construire, de planter sa station, est-ce que ça vaut la peine techniquement, sur le plan urbanistique, sur le plan environnemental et tout ça. Donc c'est un travail d'équipe qui doit être fait pour dans l'intérêt du gouvernement et dans l'intérêt de nos hommes d'affaires, en fait.
Alors parlons-nous un peu pour ce qui est justement, vous avez évoqué quelque chose de très important du secteur de distribution ou d'achat même de ces carburants précis. Ça va se passer comment pour qu'on soit assuré qu'il s'agit de produits de bonne qualité?
Nous avons un mécanisme, nous avons un programme au ministère des Carburants qui s'appelle le programme de marquage moléculaire des produits pétroliers.
Oui.
Donc quand un produit arrive, avant qu'il ne soit déchargé dans les terminales de CEP ou de Saucir ou de SPCA ou de RESCOM, ce produit, premièrement, il doit subir les analyses pour voir s'il est conforme aux spécifications admises. Ce sont des spécifications internationales admises en RDC. Ça, c'est la première étape. Si c'est des produits qui répondent aux spécifications validées par l'OCC dans ses attributions à ces rôles-là, après ce produit est marqué. Ça veut dire on met un marqueur. C'est un produit. Enfin, c'est une signature chimique invisible un peu. On met dans les produits là à ce niveau-là. Et lorsque le produit quitte les installations de CEP Congo, pour prendre cet exemple-là, CEP ou les RESCOM, ça va vers une station-service. Il y a la brigade de contrôle qui arrive à ce niveau-là pour contrôler si le produit mis en vente a cette signature-là. Oui. Et là, nous avons aussi deux types de marqueurs. Il y a un marqueur dédié aux produits commercialisés, mais il y a aussi un autre marqueur qui est dédié aux produits exonérés. Donc, si nous attrapons, par exemple, dans une station un produit qui a la signature d'exonération, il y a un problème. Donc la station doit être sanctionnée et tout ça. Donc il y a un mécanisme qui est mis en place. Encore une fois, j'ai dit, nous allons, avec le concours de tous les autres services, essayer de mettre à jour la procédure et suivre les normes.
Est-ce un mécanisme fiable ou bien vous avez souvent des difficultés pour bien faire ce contrôle-là?
Non, 100% fiable, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons ce mécanisme, cet outil nous permet d'avoir les statistiques fiables. Au jour d'aujourd'hui, nous savons exactement la consommation en termes de volume consommé ici, par exemple, à l'Ouest. Mensuellement, nous savons exactement c'est à quoi l'État doit s'attendre en termes de taxes et puis voilà, de fiscalité.
Monsieur Nzinga, vous avez suivi le conseil Tony Acharmani, parce que vous l'avez dit vous-même, ce sont des produits à réglementer. Vous avez un commentaire à faire par rapport à ce qui est du circuit d'achat et des distributions, par rapport à ce qu'il vient de dire?
Je voulais dire au conseiller, c'est quand même anormal qu'on retrouve des produits qui ne sont pas dans les circuits normaux. Ça, c'est anormal. Donc, effectivement, il y a un problème. Mais je veux aussi dire une chose. Ici, il y a tendance trop à tirer sur le ministère des hydrocarbures lorsqu'il y a des problèmes. La population doit garder à l'esprit que le ministère des hydrocarbures, c'est un ministère technique. Et d'ailleurs, on va voir comment est-ce que le travail de ces ministères a beaucoup amélioré. Ça, il faut le reconnaître. On n'a jamais vu un haut cadre ou bien le ministre lui-même aller contrôler les stations. On avait une vidéo il y a quelques mois passés, avant l'entrée du ministre actuel, un vice-ministre qui est allé contrôler des produits de Vodacom. Hein. C'est malheureux quand même. Hein. Mais ça, de telles chaînes, on ne voit plus. Donc on sent vraiment qu'il y a une vraie volonté de changer les choses avec le ministère des hydrocarbures, avec les ministres, son excellence en place. On sent vraiment qu'il y a une vraie volonté d'améliorer, une vraie volonté de communication. Et moi, là, j'ai dit félicitations. Donc il faudrait maintenant voir avec cette brigade, parce que ça, c'est la consommation aussi. Donc les stations qui vendent des produits non marqués, donc ça veut dire que ces produits ne sont pas passés par des analyses d'entrée des produits ici en RDC. Donc là, les consommateurs pour de l'essence achetée, il peut avoir des mélanges. Donc, c'est ce qui n'est pas normal. Donc, il faudrait que l'État, surtout par les ministères de technique et le ministère des Géographies, renforce cette brigade de contrôle afin que le consommateur ait des produits appropriés. Et après, il y a des conséquences même pour les moteurs. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est aussi très, très important. Mais je souligne et je le répète,
oui.
S'il y a 3-4 stations en un seul lieu, s'il n'y a pas un bon chiffre d'affaires, laissez les stations aller fermer. Donc, si ça continue, donc il y a du business, il faut maintenant que l'État les encadre.
Voilà, on revient à vous, Nixon Zinga, restez toujours en ligne. Le temps pour nous d'ouvrir les standards pour accueillir les avis des auditeurs. Nous avons Maître Machaka qui nous appelle de Lubumbashi. Nous avons également Platini qui est à Mbandaka. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la pays, soyez les bienvenus. C'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service où nous parlons des risques liés aux constructions anarchiques des stations-service. Si vous voulez intervenir, composez les 081-890-63-94 ou les 099-751. 63-94.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Maître Machaka nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Maître Machaka.
Bonjour, messieurs journalistes, et bonjour aux invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Daniel, de m'accorder la parole. Vous savez que ce qui se passe dans notre pays, c'est déplorable. Et j'avais, avant d'entrer dans une petite analyse, j'avais quelques questions à poser aux auditeurs. Puisque, comme on vient de nous dire là-bas, que le ministère d'hydrocarbures, c'est un ministère technique. Et je voudrais savoir, qu'on puisse nous préciser, quelle distance doit séparer une station-service et les maisons de résidence. Ça, c'est un. Deuxièmement, combien d'espace, quel espace doit avoir une station pour respecter les normes et être implantée? Puisque ce que nous vivons aujourd'hui, messieurs les journalistes, en tout cas, c'est déplorable. Devant, vous trouvez une station, derrière, une maison de résidence, une maison résidentielle, monsieur Jésus-Di. Et avec tous les dangers que la population court, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans une station qui n'a même pas une capacité d'accueillir 5 ou 6 véhicules en ligne là-bas, s'il faut stationner, c'est sur la route pour attendre d'être servi. Et pourtant, aujourd'hui, messieurs les journalistes, nous avons combien de véhicules d'intervention en cas d'incendie? C'est déplorable. La responsabilité est partagée. Je ne sais pas qui fait l'urbanisme, puisque aujourd'hui, avant d'implanter, je crois, l'urbanisme, les techniciens de l'urbanisme doivent passer pour vérifier si les conditions sont réunies et avant d'autoriser de construire une station, mais c'est les journalistes, mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Alors, je ne sais pas où est-ce que on voit l'intérêt de la population, la vie de la population, ou bien ils voient l'État, c'est que ces stations-services-là, leur payent. Puisque aujourd'hui, pour nos autorités, nous, la population, n'avons pas de valeur. Hein. C'est que la valeur, on donne aux opérateurs économiques, puisqu'ils paient des taxes. C'est comme ayant invité qui venait de le dire que non, ils créent les emplois, ceci, cela. Créer les emplois tout en mettant la population en danger. Est-ce que, entre la vie de la population et les taxes que les pompistes, cela, payent, notre gouvernement, je ne sais pas, et même ils ont la réponse là où ils se pensent, monsieur. Voilà, au moins. Et ce que j'avais à dire concernant cette construction anarchique, puis ici à Lubumbashi, ça ne va pas. Ça ne va pas.
Merci, Maître Machaka, d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Mbandaka, Platini est en ligne. Bonjour, Platini.
Merci, bonjour. Je salue tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Platini.
Voilà. Merci beaucoup aujourd'hui pour m'avoir associé dans ce débat. Je pense que je voudrais parler, bien que maître a tout ramassé ce que j'avais dit, mais ce que je veux vous dire, il y a une chose, surtout sur le front de la cartographie. Je parle ici parce que je suis dans la ville de Manaka, où nous avons au moins deux stations au centre-ville de Manaka. Donc, deux stations, il y a Engen et Kobe, tous sont stationnés au centre-ville de Manaka. Et tout au long, il y a des personnes, il y a des maisons, il y a des terrains, il y a la population. Alors, moi aussi, je voudrais parler autour d'ici. Parce qu'avant d'installer cette station de pétrolière, pardon, il y a beaucoup de services. Je pense qu'il y a un service de l'urbanisme à tout temps aussi, donc être là impliqué. Mais tous ces services-là sont impliqués, ils connaissent la réalité des choses, mais souvent ils font semblant, parce que les pompiers, c'est là comme le maître a dit, ils peuvent le temps, c'est etc. La question que je vais poser à M. Le Vicky, qui est aussi ensemble avec vous, que le Vicky peut vraiment nous dire pourquoi la place comptée est placée la station.
Platini, vous voulez bien répéter la première question?
Oui, la première question, je dis ceci. Je parle ici parce que je suis dans la ville de Manaka. Bien qu'ici, nous avons deux stations. Les deux stations se trouvent au centre-ville de Manaka. Mais nous avons sur le milieu périphérique. Mais tout le monde là n'arrive pas à aller poser les stations de la périphérique. La première question, sur le vitesse dit, quand est-ce qu'une personne peut implanter une station de pétrole, une station pétrolière? Et quand est-ce qu'on peut planter ça? Est-ce qu'on peut planter au centre-ville de Manaka, au centre-ville, ou bien on peut planter ça d'une manière ou une autre, ou soit dans une limite périphérique? La deuxième question, je pense que la ville de Kinshasa, il y a au moins beaucoup de stations. Mais pourquoi le prix, le carburant, nous les consommateurs, le prix, il n'y a pas ce qu'on appelle la stabilité de prix? Pourquoi? Stabilité, dès qu'il y a une façon de la stabilité de la prix, il n'y en a pas. Même ici à Manaka, chaque jour, le prix ça augmente. Aujourd'hui, hier, c'était à 3000, aujourd'hui, c'est à 4500. Là, ça pose aussi un certain problème. Et aussi, pour continuer, il sait que le vitesse, il a fait qu'il est à la majeure. Il peut nous dire pourquoi.
Platini, s'il vous plaît, quand vous dites 4500 francs, c'est à la pompe?
Oui, c'est à la pompe. Au niveau de la pompe, si vous allez au niveau de la pompe, vous achetez un litre, ça coûte 3500 francs. Et le petit détaillant, on vend un litre à 4200 francs aujourd'hui, ici, dans la ville de Paris. Je vais l'acheter, il n'y a même pas une heure du temps.
Alors, d'accord.
Pourquoi ça augmente? Pourquoi ça augmente comme ça? Il n'y a pas une stabilité de prix, pourquoi? Et aussi, il faut citer, il y a une question que je vais poser à l'invité. Il est technicien amateur. À chaque stationnement, on dit qu'on ne peut pas entrer avec le téléphone. Quand vous le citez, on a écrit interdit avec le téléphone. Il n'y a pas un appel. Parce que ça peut rebondir, ça peut faire des choses, des trucs, il y a tout ça. Alors, je ne sais pas. Est-ce que, avant d'installer une station, les ports carburants, tout ça, est-ce que le vitesse compte de la vitesse avec le téléphone laquelle qu'on utilise aujourd'hui? Parce que ça, c'est le sens, il y a gaz, il y a quoi, il y a etc. tout ça. Alors, je voudrais vraiment que l'invité nous dise, qu'il puisse nous dire un peu, ce que nous, les consommateurs, on peut faire. Parce que, ce qui m'a fait, je vois dans la vie des Manaka, c'est déplorable. Il y a des stabilistes autour de ça, il y a des personnes, etc. Il y a des gens, il y a des mamans, il y a des ONG à côté, tout ça. Mais au centre, il y a une maison indienne. Et nous, je ne sais pas, ça peut nous arriver quoi? Surtout les gaz, quand le gaz arrive, tout ça, pour le mettre, tout ça, surtout le gaz, quand nous expliquons les gaz là, dans les prochains jours qui viennent, est-ce qu'on peut approuver les maladies? Voilà ce que je voudrais vraiment avoir les précisions sur le vide, monsieur Tati.
Merci Platini d'avoir appelé depuis Manaka. Monsieur Anthony Charbonnier, vous avez suivi nos deux auditeurs. En tout cas, c'est d'abord par rapport aux normes, hein, comment d'implanter une station de service, quelles sont les normes à respecter. Il y a également Platini qui s'est posé la question de savoir comment la ville de Manaka, il n'y a que deux stations, c'est au centre-ville, alors qu'il y a aussi à la périphérie, on pourrait construire des stations. Et puis il est revenu également sur sur le prix. Hein. Bon, puisque vous êtes des hydrocarbures, peut-être vous pouvez faire un commentaire là-dessus. Alors, s'il faut parler
des
normes.
Oui, je vais rapidement commencer par... je vais ramasser les questions comme ça.
Oui.
Quand il dit qu'en Bandaka, il y a deux stations qui se concentrent au centre-ville, alors qu'il y a dans les périphéries de l'espace et tout ça. Mais bon, M. Platini doit savoir que la construction d'une station, c'est avant tout un business. C'est, ça répond aux exigences économiques. Donc il y a une étude de marché qui est absolument réalisée, menée pour voir où il peut implanter les stations. Si vous observez bien, toutes les stations, presque la quasi-totalité des stations sont implantées à des endroits, on va dire, chauds de circulation et tout ça. Les gens visent d'abord l'accessibilité tout autour des grandes artères, où les clients, la clientèle peut facilement...
Donc là, il y a un trafic important, comme ça, on est sûr qu'on va vendre...
Je pense qu'il appartient aussi à l'État de construire peut-être des routes. S'il y a des routes bien faites, cela va aussi amener des développements en termes de l'implantation des stations, parce qu'à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle justement... Ça va influencer sur le trafic et l'accessibilité à ces stations. Donc tous les opérateurs visent d'abord ça. Donc il faut voir l'étude de marché par rapport à ça. Bon, alors il soulève justement la question, encore une fois, des normes autour de ces stations en Bandaka. C'est important, nous insistons sur ça. Et nous, à notre niveau, nous mettons déjà au travail et nous encourageons la mise d'opérationnalité de ces comités mixtes pour ramasser tout ça. Parce que là, il a évoqué plusieurs problèmes plutôt qui relèvent de l'environnement. Parce que c'est pas normal justement qu'il y ait autour de la station toutes ces activités connexes.
Oui.
C'est très très dangereux en effet, parce que alors il a parlé des téléphones par exemple. Oui, c'est interdit de manipuler plutôt les téléphones dans les stations. Bon, entrer avec le téléphone, vous pouvez entrer avec votre téléphone, mais ne pas le manipuler quand vous êtes dans les stations.
Mais il y a des personnes qui croient pas à cela. Il y a des personnes qui disent que non. Il y a ceux qui témoignent même que non, j'ai reçu un appel, j'étais à...
Non, parce que la pompe de distribution est hautement électronique. Il faut faire attention avec ça, avec les ondes que le téléphone émet lorsque vous passez les coups de fil. Peut justement créer des perturbations, on ne sait jamais, il faut éviter en fait.
Et il faut tenir compte de cela, parce que c'est par mesure de précaution, parce qu'on ne sait jamais.
Par mesure de précaution qu'on le dit comme ça. Et même la cigarette est interdite, il n'y a pas que le téléphone, vous avez toute source de feu et tout ça. Il faut éviter les briquets, les cigarettes et tout ça, il faut vraiment éviter, il faut respecter. Alors, il a aussi parlé des prix. Effectivement, les produits pétroliers, c'est un produit qui est réglementé. Il y a la structure des prix par zone. Je crois qu'à Bandaka, il y a une structure des prix pour cette partie-là aussi. Donc, le prix doit être respecté, le prix qui est affiché fixé par la structure des prix. Donc, quand c'est pas comme ça, j'en profite pour interpeller Engen et Kobil, les deux stations qui sont là. Et à ma sortie d'ici, je vais encore essayer de les appeler pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ils vendent à ces prix-là. C'est vrai que par moment, la rareté des produits fait que les opérateurs puissent en arriver là, mais je ne pense pas pour Engen et Kobil, qui sont deux sociétés.
Généralement, ça ne se passe pas du propre chef de entreprises.
Non,
c'est l'État congolais qui fixe les prix.
Je vous ai parlé de la structure des prix. Donc, ces deux sociétés qui sont citées sont des sociétés majeures qui savent comment ils font.
Oui.
Lorsqu'ils vendent même à perte, ils savent comment ils déclarent leur perte à l'État. Quand on parle d'estivation, c'est ça aussi. Ils déclarent ce qu'ils ont perdu parce qu'ils ont respecté les prix fixés par l'État et l'État leur paye ce qu'ils ont perdu. Donc, ces deux stations... Ces deux sociétés, nous devons les interpeller pour comprendre de quoi il s'agit pour cette question-là. Alors, Maître Machak a parlé des dimensions et tout ça. Vous conviendrez avec moi qu'une station arrive dans un environnement qui est déjà... Souvent, c'est les maisons d'habitation qui précèdent d'ailleurs les stations. C'est pas la station qui vient après et les maisons suivent, non. Donc, nous sommes dans un vrai cas de figure de challenge, là. Parce que normalement, une station, lorsqu'elle est construite, elle doit respecter des distances assez importantes avec les maisons d'habitation et tout ça. L'essentiel, parce que vous le savez aussi que lorsqu'une station est implantée, les citernes se trouvent dans les sous-sols, ce qui est déjà bon en termes de sécurité, mais cela n'empêche pas le respect des distances qui doit exister entre une station et les maisons d'habitation, pas moins de 5 voire 10 mètres de distance, ça c'est important. Et autour de la station, on doit avoir des...
Il y a des coins, par exemple, moi je crois avoir vu une station du côté du Super Léba où vraiment c'est contigu vraiment à une maison. Donc il n'y a même pas d'espace.
Non, là il y a un vrai problème. Oui. Il faudra absolument qu'on y revienne.
Oui.
Puisque l'option est déjà levée par le gouvernement, on doit y revenir. Mais c'est Nixon l'a même dit. Donc il faut vraiment regarder pour éviter cette proximité, parce que quand il y a un incendie, par exemple, si l'incendie s'est déclaré au niveau de la station, ces maisons ne seront pas épargnées.
Exactement.
Vous avez vu au niveau, une fois je crois, un camion est allé dépoter du carburant du côté Mimosa Kinsuka, je pense, dans une station, et pendant l'opération le camion avait pris feu. Et donc, il a fallu beaucoup d'ingéniosité de la part du chauffeur, dégager le camion assez rapidement. Mais heureusement, il n'y avait pas des maisons collées à la station. S'il y avait des maisons collées tout de suite à la station, c'était la catastrophe. Donc ça, c'est important de pouvoir observer.
Voilà, on va poursuivre avec les auditeurs. Il y a Maître Mbokolo qui nous appelle de Kinshasa. Je me tourne rapidement du côté de Nixon Zinga, qui est président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz. Et par rapport aux normes, aux normes évoquées par nos auditeurs, vous avez un commentaire à faire là-dessus, Monsieur Nixon Zinga, pour le respect des normes à chaque fois qu'il faut implanter une station en service.
Oui, l'auditeur, Maître Massafa, il a parlé des distances. Hein. Le conseiller l'a bien dit, hein, c'est entre 10 et 15 mètres de distance. Et il y a aussi la... Gardez à l'esprit que la station telle qu'elle est construite, déjà, les différents équipements tiennent en compte des risques d'incendie. Il y a les plus grands risques, c'est l'incendie. Donc voilà. Alors, notre ami Platini de Mbandaka, il parle de manque de stations dans les milieux périphériques, hein, le conseil l'a dit. Donc, les opérateurs, ils vont faire une étude de marché. Hein, il faut prendre en compte la fréquence, hein, du trafic. Donc, on ne va pas mettre une station pour ne pas vendre. On met la station pour vendre. Voilà. Alors, l'interdiction de téléphones, gardez à l'esprit que nos téléphones, surtout à la réception d'appels, quand nous recevons un appel, il y a la formation de courant statique. Et ce courant statique, c'est une source d'émission. Pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait trois éléments. Il faut qu'il y ait un combustible, il faut qu'il y ait de l'air, donc l'oxygène, et puis il faut qu'il y ait une source d'émission. Alors, déjà quand on est dans une station, les trois éléments sont déjà réunis. Il y a un combustible, il y a l'air, hein, l'oxygène, mais il manque une source d'émission. Donc la réception d'appel produit un courant statique, et il y a des vidéos déjà, je crois il y a des vidéos de départ de feu parce que quelqu'un a reçu un appel de son téléphone. Donc c'est dangereux de recevoir un appel dans une station service. C'est dangereux. Donc voilà ce que moi, je pourrais dire à ce stade. Alors, les maladies, les hydrocarbures, les maladies, nous avons les maladies liées aux poumons et les maladies liées à la peau. Ces maladies-là, ce n'est pas par une exposition de 3 minutes ou 5 minutes qu'on passe dans une station qu'on peut avoir une maladie pulmonaire. Alors, le voisin, nous avons laissé du vent, c'est ainsi qu'il faut une étude d'impact environnemental, hein, et social, hein, parce que, qu'allons-nous dire de ces pompistes qui travaillent 24 heures, 12 sur 24, dans un tel environnement? Moi, j'ai travaillé dans l'industrie pétrolière, j'ai une bonne santé, voilà, donc, maladie, ça c'est des commentaires, les gens veulent parler, mais garde à l'esprit que moi je ne vois pas une personne exposée devant ces produits développer des maladies extrêmes, donc c'est voilà, ça c'est limite.
Voilà, on va prendre Maître Mbokolo qui nous appelle depuis Kinshasa. Maître Mbokolo, bonjour.
Oui, bonjour la Radio Capi, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
On vous écoute, Maître Mbokolo.
Bon, merci beaucoup. Je pense que au sujet de ce secteur des hydrocarbures, moi je pense que c'est un secteur où il y a trop de désordre, parce que on le voit partout à travers la ville de Kinshasa, on le voit même chez moi à l'Équateur, en Mbandaka par exemple. Je vous dis que par exemple à l'Équateur en Mbandaka, vous trouvez des stations. D'abord, nous avons des stations de service. Il y a Engen et Kobil qui ne fonctionne pas, lorsqu'il y a du carburant, les carburants est vendu nuitamment au Kadhafi, et les Kadhafi aussi ont installé leurs dépôts, les uns dans les résidences, les autres auprès de services des bâtiments de l'État, et comme ça pose un problème, et à chaque fois, il y a toujours des incendies. Et on ne sait pas si réellement il existe un ministère des hydrocarbures, ou même au sein de nos provinces, s'il existe une division des hydrocarbures. Donc c'est un secteur oublié, qui n'est pas vraiment réglementé. On ne sait pas si l'État lui-même est complice ou ce sont les autorités qui sont complices. Et voilà pourquoi ça nécessite une réglementation rigoureuse, parce que ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui qui peut se réveiller un bon matin et il s'est dit être Kadhafi, il s'est dit être propriétaire d'une station-service. Je pense que l'État doit imposer quand même des obligations, des conditions, et comme dans d'autres secteurs. Et là, je pense qu'on on pourra quand même diminuer, atténuer les effets liés aux incendies, aux méfaits qui arrivent assez souvent.
Voilà, merci à Maître Mbokolo d'avoir appelé Kinshasa. Kalo Kalonji, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour Kalo. Kalo n'est plus en ligne, on va peut-être le retrouver plus tard. Alors, Monsieur Tony Atchermani.
Oui, je vais directement répondre à Monsieur Mbokolo qu'il n'y a pas de désordre, la réglementation existe, nous avons une réglementation assez fournie, mais le problème c'est tout simplement le fait que très souvent, lorsqu'on veut appliquer cette réglementation dans sa rigueur, il y a toujours les sociales qui nous est opposé. Vous vous souviendrez, son excellence monsieur le ministre des hydrocarbures avait décidé de la fermeture des, par exemple de l'interdiction d'importation de carburant par Lufu ou par Mwanda, enfin les produits qui viennent de l'Angola et tout ça. Ça c'est une chose, mais encore pas très longtemps, il a interdit la prolifération des dépôts de Kadhafi dans la ville de Kinshasa. Mais tout de suite, c'est pour ne pas les citer, il y a toute une organisation autour de la défense des bien-être de la population, c'est de l'emploi qui sera mis à mal et tout ça. Il faut essayer de relativiser tout ça, mais ça pose énormément de problèmes. Mais quand cela ne tient, là nous sommes vraiment décidés. Par exemple, en ce qui concerne les dépôts de Kadhafi dans la ville de Kinshasa, vous avez vu, le ministre a mis en place ce qu'on appelle une task force, Hydro Task Force Kinshasa. Ça va aussi se multiplier à province. On a d'abord essayé de lancer ça à Kinshasa comme un projet pilote. Ça produit déjà plus ou moins des effets. Nous avons répertorié la quasi-totalité des dépôts ici, parce que maintenant, il faut les délocaliser. Ça, c'est une ligne de solution. On fera la même chose. On va voir ce qui se passe à Mandaka. Ce qu'il dit, c'est grave. On va aussi essayer d'interpeller, de mettre à contribution notre chef de division, qui doit faire ce travail-là, parce que le carburant ne peut pas être vendu dans les maisons, dans les... Non, ça c'est vraiment anormal.
Les stations qui vendent nuitamment, d'après Maître Mbokolo.
Oui, encore une fois, nous allons essayer de comprendre à partir d'Engen et Kobil, parce que ça, c'est deux sociétés, des grandes sociétés de distribution, ce sont des majors. On ne peut pas comprendre ce genre d'informations sur ces sociétés-là. Je ne peux pas faire des commentaires ici. Je vais d'abord me renseigner, je vais remonter les formations auprès de l'autorité de tutelle. Et on va essayer d'interpeller ces deux sociétés qui nous expliquent de quoi il s'agit, parce que c'est pas normal. Si elles ont des carburants, elles doivent le vendre à la station, aux clients, et non vendre aux Kadhafi qui doivent à leur tour revendre ça aux autres clients. Ça n'a pas de sens. Si la clientèle est là, pourquoi ne pas vendre directement aux clients, en lieu et place de vendre d'abord aux Kadhafi comme des intermédiaires, pour qu'après les Kadhafi revendent à ses clients à un prix exorbitant. Donc ça cache quelque chose qui n'est pas normal.
Il s'est même posé la question de savoir si vous avez une division à niveau de la province.
Oui, nous avons une division dans l'Équateur qui envoie d'ailleurs régulièrement ses rapports, mais bon, ça c'est un aspect qui nous interpelle effectivement. On va essayer de voir ce qui se passe et corriger là où il faut corriger. Mais la réglementation existe, ça, il doit avoir ses assurances.
Alors une question qui me vient à l'esprit, du moment où vous parlez de l'opérationnalité de cette commission, est-ce qu'il n'est pas prudent dans un premier temps en train d'interdire pour l'instant d'implanter des stations-service le temps que cette commission puisse se remettre au travail et faire des choses vraiment dans les normes?
Oui, ça c'est effectivement une des premières mesures qui est déjà arrêté comme stratégie de remettre de l'ordre dans les secteurs. Donc nous allons d'abord, avant de faire l'évaluation de l'existant, à partir de cet instant, on va pas se mettre à octroyer d'autres autorisations.
Voilà, on va finir avec, on va conclure avec vous. Je me tourne d'abord vers Nixon Nzinga, président du conseil d'administration, l'Institut du pétrole et gaz. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour notamment le respect des normes pour ce qui est de tout ce qu'il y a comme construction anarchique des stations-service, et en attendant que, en tout cas, cette commission soit vraiment opérationnelle?
D'abord, premièrement, réagir aux propos de Maître Mbokolo, oui, lorsqu'il parle de désordre. Moi, je pense que ce n'est pas du tout correct. Il y a des améliorations énormes qui ont été faites dans ce secteur. Donc, et lorsqu'il parle de Kadhafi, moi je suis quinois, né et grandi ici. Je peux lui parler de l'historique de cet affaire Kadhafi, donc le nom du président libyen. C'est dans les années 80, lorsqu'il y avait la crise et qu'il y avait. Les gens passaient une semaine dans une station, il y avait des longs fils dans les stations, et les gens vendaient, et Kadhafi même à l'époque vendait moins cher que les prix à la pompe. Donc si à la pompe c'est 800, parce que personne ne pourrait prendre ce risque de prendre du carburant chez une personne qui est postée dans la rue comme ça. Donc déjà à l'époque, les gens ne traînaient pas très difficilement, ainsi les Kadhafi vendaient à un prix moins cher qu'à la pompe. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'observe pas des Kadhafi, sauf des Kadhafi de moto, mais je ne vois pas des véhicules postés pour prendre dans les Kadhafi que j'observe à gauche, à droite. Donc, des efforts sont faits pour les dépôts. La même chose, on ne peut pas interdire de l'activité chez les Congolais, donc il faut les encadrer. Et au jour d'aujourd'hui, même au niveau de l'IPG, nous parlons avec tous ces gens-là, les dangers. Le conseil a parlé de les délocaliser, mais il faut les encadrer. On ne va pas débarquer comme ça, fermer, gueuler sur des gens qui sont sur une activité. Ça ne se fait pas comme ça. C'est les Congolais qu'il faut encadrer. Donc voilà, moi je pense que des efforts sont faits. L'idée ici, c'est d'améliorer davantage notre système, et je pense que nous allons y arriver.
Merci Nixon Nzinga. Nous rappelons que vous êtes président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz, IPG en sigle. Merci d'avoir été de notre. On espère vous retrouver prochainement.
Ok, merci.
Voilà. On va également conclure avec Tony Charmani.
Oui, donc le respect des normes, c'est nous assistons là-dessus. Et nous demandons aux différents opérateurs d'avoir leur apaisement, même s'ils voient des équipes qui vont descendre sur le terrain pour faire des évaluations. Il ne faut pas, comme d'habitude, qu'on crie déjà à quelque chose qui ne l'est pas, parce que là, on va tout de suite nous taxer de nous engager à mettre à mal les activités des uns des autres. Non, nous allons faire une évaluation. Là où il y a un problème, on dira qu'il y a un problème. On va se mettre autour d'une table avec les opérateurs pour lui faire voir ce qu'il y a et résoudre le problème qu'il y a suivant les dispositions de la réglementation du secteur.
Merci Tony Charmani. Nous rappelons que vous êtes conseiller technique au ministère des Hydrocarbures. Avec nous, on a parlé de risques liés aux constructions anarchiques des stations-service dans la vieille province de Kinshasa et dans d'autres grandes agglomérations de la République démocratique du Congo. Merci, on espère également vous retrouver prochainement. Merci beaucoup.
Vous remercie, on est toujours disponible pour donner l'information.
Génération, Zalipano yo, Bawitaki États-Unis.
Elongwe na mboka Tongo yango yo leko ya mama mwana miko bose na konte ma wana mawa mama yeye na kolela wana mawadie a mama na salia waloko la mbonge na ebaleo na konte pake pana koluke pana sema o na konte pake pana kolanka sana mbele o nani asula jenga motema na kani malilia wana mputunga imoko na panze zongi na mboka epa na tipa yo mangu na katika linga itase o na kopo fite sima nanga bebe oke mama musale kanginga imuatango kasi na kozonga na kini
avec cette note musicale que nous mettons à terme à ce numéro du magazine Okapi Service de ce jour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Tati Mapoku qui est à la coordination et réalisation de ce magazine. La mise en onde était assurée par Mimi Kindou à la présentation. C'était Marcel Ngomobala. Au plaisir de vous retrouver prochainement dans un autre numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.